siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti.
Wow, bonjour à tous, buenos días. Quelle ambiance déjà à Bertolo. Aujourd'hui, on a chaud parce qu'on va aller en Amérique latine. J'ai deux invités exceptionnels, muy spécial, especial. Alors, en face de moi, je commence par les jeunes filles. J'ai Suzanne Guardasoto qui est déjà en France depuis un petit moment, mais qui est du Chili, del Chile. Et à ma gauche, à la izquierda, tengo Alfonso Campagnolo Soradi, si, je le dis bien,
oui,
le digo
bien, oui, ouais. Oui, c'est parfait.
Qui nous arrive de d'où, d'où
de Argentine.
D'Argentine,
oui, ouais, le meilleur et le pire.
Et le pire. Ah, n'en dis pas trop pour l'instant. On va voyager sur votre continent. Alors, vous m'avez dit que l'émission s'appelait. Vous avez décidé de l'appeler d'un nom mystérieux, du troisième au premier monde. C'est ça?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Vous allez m'expliquer ça?
Ouais. Et oui, bien sûr, on va expliquer ça. Mais et c'est vrai que pour démarrer vraiment l'émission, on va un peu se présenter.
Oui.
Et c'est bon, mais comme vous avez bien dit, mon nom.
T'as le droit de le répéter, hein. Oui, c'est un beau nom.
Oui, bien sûr. Et donc, moi, c'est Alfonso, et je viens d'Argentine. Et avec Suzanne, on a fait un programme d'AFS. C'est une association qui. Et permet aux élèves de tout le monde de venir à faire une expérience d'échange culturel dans un pays étranger. Et bon, je suis arrivé il y a seulement à peu près. Suzanne, tu veux parler un peu de toi?
Bon, et comme dit Alfonso, je m'appelle Suzanne, je viens du sud du Chili. Et j'arrivais ici la dernière semaine de septembre. Je suis déjà ici 9 mois.
9 mois? Ça,
il
c'est
me reste 11 jours.
11 jours. 11 jours en France encore. Oui, vous êtes venus avec un programme et vous n'êtes pas les seuls à être venus au lycée Bertolo dans le cadre de ce programme. Mais vous êtes les seuls d'Amérique latine.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes les deux représentants de ce continent, de ce grand sous-continent. Ouais. Ouais, on parle espagnol essentiellement. Bon, évidemment, portugais aussi.
Oui, mais... c'est que j'aime bien appeler un continent inquiet.
Un continent inquiet.
Inquiet, oui.
Inquiet. Mais c'est que de mystère. J'espère que vous allez m'expliquer tout ça. Ouais. On va. Alors, on commence par une petite musique, c'est ça?
Oui, ouais. C'est vrai pour commencer le bloc.
Ouais. Alors, on y va.
Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Mire para mi derecha.
Alors, on est dans l'ambiance là déjà. Un petit peu avec Ciao, c'est ça?
Oui, c'est
une chanson de qui, ça?
C'est une chanson de Julieta Venegas et Nutella Gustav, qui sont deux artistes de Uruguay et du Mexique. Et donc, du coup, dans la chanson, on peut entendre les deux accents de Mexique et d'Uruguay, qui c'est plutôt l'accent d'Argentine. Et ben, c'est un peu chouette. Et d'abord, on avait commencé par une chanson qui s'appelle Cataluna, et on l'a choisie parce qu'on parle un peu de la radio.
Ah, c'était la chanson du début.
Début, voilà.
Ouais. D'accord. Parce qu'elle parlait. Alors, on va revenir sur Ciao qu'on vient d'écouter. Tu me parles de plusieurs accents. Alors, tu me donnes quelques différences entre l'espagnol du Mexique et puis l'espagnol d'Uruguay, c'est ça, Uruguay?
Oui, voilà.
Un exemple frappant pour vous, pour vos oreilles hispanophones, parce que je vous avoue que pour moi, bon, je suis un petit peu hispanophone, mais c'est pas flagrant. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc vraiment, on se dit là c'est un Uruguayen, là c'est un Chilien,
oui, je crois
là
que
c'est un Mexicain, c'est sûr.
Je vais laisser
sûr,
la
quoi.
Parole à Suzanne qui
c'est prononce
un point objectif, parce que moi je suis argentin et c'est pas très, c'est un peu subjectif quoi.
Bah, pour l'Argentine, surtout, c'est trop facile de les connaître parce qu'ils changent beaucoup les mots.
Ah, d'accord.
Oui,
ils les transforment.
Oui, ils les transforment.
Comme quoi, par exemple, donne-nous un exemple.
Très spécial.
Donne-nous un exemple, Suzanne.
Bon, Suzanne va se présenter et je vais me présenter aussi.
Ah oui. Faites-le à chacun votre tour, qu'on entende ces différences.
Je me présente en espagnol.
Oui.
Me llamo Suzanne, vengo de Chile y tengo 17 años. He venido con AFS, una agencia de intercambio, y estoy en Francia ya 9 meses.
Buenas tardes, me llamo Alfonso, soy de Argentina, vivo en General Cabrera, Córdoba, y vine también con AFS para hacer una experiencia de 5 meses en extranjero.
D'accord. Alors, il y a le « che », je l'ai bien repéré. Pour le reste, tu parles vite, mais c'est quoi les principales différences par « che » ? Une intonation, une...
Oui, aussi, je crois qu'on peut, on distingue un peu l'accent de ma région de Cordoue qui est en train à mettre un accent sur l'avant-dernière syllabe des mots.
D'accord.
Et donc, bon, c'est ça, c'est un peu la différence aussi.
Mais et ça, on ne le fait pas, on fait pas au Chili ?
Bah non, on fait ça, non.
On fait pas ça.
D'accord. Eh, mais est-ce qu'il y a des mots concrètement qui changent ? Donnez-moi un exemple de mot très typique, un truc vraiment
typique. Ah oui, en Chili, typique. Par exemple, on utilise beaucoup de mots qu'il y a qu'en Chili, qui ouais. comprend que les Chiliens.
Ouais.
Bah, par exemple, cachai, weon.
Qu'est-ce que c'est ?
Cachai, ça dépend de comment tu l'utilises, mais tu peux faire comment tu comprends.
Oui, tu piges.
Ah d'accord, c'est une... Ah mais ça vient pas de catch en anglais ?
Non,
c'est pas ça ?
Ah oui, en anglais,
c'est cachai.
Ouais, d'accord. Et vous l'utilisez pas où, par exemple, ça, en Argentine ?
Non, je crois que c'est pas une chère personne, mais ça, je l'ai jamais entendu, ça. Vraiment, c'est qu'avec Susan qui est vraiment... C'est-à-dire, nous, tous les deux, on parle français, mais c'est vrai que, du coup, bien sûr qu'on parle espagnol entre nous, mais c'est vrai que parfois, on doit retourner en français pour mieux se comprendre, parce que...
Ah, carrément.
C'est vrai que les mots, parfois...
Vous parlez le français pour vous comprendre. Alors, ça veut dire que, très sincèrement, si vous rencontrez quelqu'un d'Amérique latine, vous savez immédiatement dans les premières phrases d'où il vient, par exemple ? C'est possible,
c'est...
ça ?
Oui, c'est possible.
Ouais, c'est possible. Oui, dans les premières minutes, vous êtes capable, sans qu'ils vous le disent... de quel pays, mais si vous l'entendez simplement, imaginons on est à la radio, là je vous amène d'autres personnes sans les connaître, rien, vous les écoutez juste,
oui,
vous auriez
dire qu'il n'est pas de notre pays. Oui,
d'accord,
ça,
d'accord.
Oui, chaque pays c'est trop différent, l'accent, ouais. Donc on peut différencier très bien.
D'accord. Bon, après, vous comprenez
il y a le
quand
reggae
même.
Oui, bien sûr, quand on se comprend, mais parfois on reste un peu bouche bée parce que on ne comprend pas les expressions.
Ouais,
oui, t'as dit quoi ouais. Hein, comme ça.
Et dans la chanson que vous avez passée, on entend bien ces différences.
Et oui, c'est vrai, les deux groupes, ça se voit un peu les accents. Ouais.
Ok, bon, c'est bien, on a déjà un petit aperçu de la tonalité linguistique de l'Amérique latine. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans votre expérience de jeunes gens en France. Ouais. Alors, vous êtes venu de loin, n'est-ce pas, du troisième monde. Vous voulez parler de ce problème, de cette histoire de troisième monde maintenant ou c'est...
Bah oui, on peut le mesurer.
Vous venez, alors, je vais essayer de poser la question. Vous venez d'un troisième monde et vous êtes revenu dans le premier monde. On peut le dire comme ça.
Oui.
Alors, qu'est-ce que deux jeunes du troisième monde viennent chercher dans le premier monde ? Déjà, vous nous expliquez ce que c'est, ces notions qui sont un peu floues, enfin même inexistantes dans notre mental français. Et après, voilà, dites-nous ce que vous cherchiez en Europe. Qu'est-ce que ça correspond à ce que vous cherchiez, ce que vous pensiez ? Qui veut parler de ça ?
En Amérique du Sud, on voit l'Europe, les premiers mondes, comme un rêve.
D'accord.
Comme que le monde est parfait ici.
Alors, premier monde, c'est le rêve, c'est l'idéal.
Oui. C'est comme les rêves américains.
D'accord.
Pour nous, c'est comme le rêve américain, mais en Europe.
Ouais, d'accord. Et donc, alors, qu'est-ce quoi le deuxième monde ?
Bon, en fait, si on peut faire la différence, c'est vrai que, et d'abord, c'est-à-dire le premier monde, c'était le pays qui ont participé dans la Première Guerre mondiale.
D'accord.
Et le deuxième monde, ceux qui ont participé à la Seconde. Mm-hmm. Et le troisième monde, ceux qui n'ont pas participé, par exemple l'Argentine, le Chili, l'Amérique latine, on peut dire. Mais c'est vrai que maintenant, le sens est plus élargi. On parle vraiment du premier et troisième, comme vraiment le premier, ce sont des pays développés. Et alors que dans le troisième monde, c'est vrai que les choses ne marchent pas, ce sont aussi des pays qui viennent d'être nés.
Qui viennent d'être
nés.
Qui viennent de naître.
Qui viennent de naître,
qui sont plus frais, plus neufs. D'accord. Le Nuevo Mundo, quoi.
C'est ça.
Ok. Et alors, du coup, pour revenir à ma question du départ, un jeune du troisième monde qui vient de naître, qu'est-ce qu'il cherche dans la vieille Europe quand il vient ici ? Vous dites un rêve, mais c'est un rêve quoi ? Au niveau économique, au niveau des valeurs, au niveau de l'architecture
Pour moi, c'était connaître. Je connais Latinoamérique. Pour moi, connaître l'Europe, c'est avoir de nouvelles idées, des trucs comme ça, pour après arriver chez moi et faire de nouvelles choses que j'ai prises ici en Europe.
C'est intéressant parce que c'est paradoxal. Vous allez dans l'ancien monde pour avoir de nouvelles idées.
Oui.
Alors que vous êtes dans un monde qui vient de naître. C'est marrant. C'est vraiment une dynamique comme ça, un peu paradoxale quand même.
Ah oui, oui,
parce que finalement, c'est l'ancien monde.
Voilà,
vous avez cherché de
doux.
Voilà. L'ancien monde que vous inspire.
Vous avez plus d'expérience.
Ouais. D'accord.
Oui,
il y a l'idée. Alors, c'est une idée plutôt une expérience historique, politique. D'accord. C'est et donc, alors, en arrivant ici, est-ce qu'il y a quelque chose justement que vous avez tiré de cette expérience ? Alors, Suzanne, 9 mois en France, Alfonso, 3 mois, 4 mois ?
Et 5.
5 mois. Et alors, qu'est-ce qui vous paraît correspondre à votre image que vous aviez auparavant ?
Bon, c'est vrai que
ça correspond ou ça correspond pas ?
Bah oui,
ce vieux monde.
C'est vrai que notre monde, l'Amérique latine, on a une culture assez différente. C'est vraiment, et par rapport à la famille, vraiment un sentiment d'appartenance. Lorsque vraiment ici en Europe, les choses sont différentes. C'est-à-dire, d'abord, on peut dire que les choses marchent vraiment. La technologie sont des pays développés ou vraiment, c'est-à-dire, quand je suis arrivé à l'aéroport, quand j'ai pris les bus, j'ai dit, ah non, mais c'est incroyable, ça marche, il n'y a pas beaucoup de retard. Avec les trains, il y a un réseau ferré, vraiment, il y a vraiment de la technologie que l'on peut trouver ici. Alors que vraiment, oui, en Argentine, surtout, ça va prendre plus de temps pour y parvenir, quoi.
À cause de la technologie ou à cause de l'idée en France, si tu parles de la France, il y a aussi un service public extrêmement développé et fort.
C'est aussi,
c'est l'aspect technologique et puis le côté social qui est extrêmement...
Oui, le côté social, c'est vrai que vous avez un autre point de vue. Et, c'est-à-dire, bon, quand je suis arrivé, c'est vrai, ça peut être négatif et positif aussi, que vous êtes obéissant.
Ouais.
C'est-à-dire que vous, bien sûr, vous...
C'est la première fois que j'entends que les Français sont obéissants, mais c'est...
Ah bon, oui,
il faut aller dans le troisième monde pour avoir une vision. Alors, j'attends une explication qui m'intéresse.
Bon, c'est-à-dire que bien sûr, vous suivez la loi, vraiment, vous faites les choses de la manière qu'il faut les faire, oui.
Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Alors, plutôt plus citoyen, peut-être ?
Oui, plus
docile et
vraiment,
plus citoyen, ouais.
Oui, c'est comme ça, c'est-à-dire, en Argentine, c'est toujours, on dit qu'on trouve le... Et on cherche, oui, un autre moyen pour faire
tu vas transgresser.
Choses, oui, plus facile pour transgresser.
C'est un peu la loi, la règle. C'est visible au Chili aussi, ça te semble être...
Oui, c'est la même culture qu'on est en Argentine et au Chili. On est vraiment
il y a cette idée de transgression, de passer autrement, de faire les choses autrement, quitte à transgresser.
Oui, c'est vrai.
Transgresser la loi, passer outre la loi. D'accord. Ah oui, et du coup, c'est apaisant alors d'avoir une société où ça fonctionne mieux ? Tu te sens apaisé ou du coup c'est ennuyeux ?
Bon, oui, je crois que tu le dis, parce que c'est vrai que je dis mal, mais vous ennuyez un peu quand c'est-à-dire vous suivez vraiment la loi, il n'y a aucune manière de trouver une autre solution, une autre chose. Oui, alors que, bon, en Argentine, on envisage toujours plusieurs manières, vraiment, on se plaint toujours, oui, ici aussi.
Ouais, c'est ça, bon, se plaindre, c'est aussi très français, mais on n'est peut-être pas très lucide sur le fait que beaucoup de choses fonctionnent en France très bien. On a peut-être du mal à se rendre compte des richesses qu'on a, pas seulement économiques, mais d'un bon fonctionnement social, pour l'instant, qui est encore très visible, peut-être.
Quand j'y arrivais, c'est l'organisation que vous avez, surtout avec les horaires de train, de bus.
Ah,
chez moi, à peu près, les bus, qui dit à 7h, les bus vont arriver à 8h, 8h30.
Ah oui, c'est normal, c'est parfaitement normal. Vous attendez.
On attend et bon, ça...
Il arrive.
Un minute de retard, ça jamais.
Ouais. Oui, voilà. Vous dites, mais comment ça ? C'est scandaleux, vraiment, 5 minutes. C'est-à-dire, quand parfois, je lis le journal ici en France, je vois, la hausse de prix, le pouvoir d'achat, l'inflation.
Ouais.
Mais en Argentine, ça, c'est le pain de tous les jours.
Ouais.
On dit, il faut faire avec.
Ouais. Et justement, c'est des pays où il y a quand même en ce moment beaucoup de... une crise économique pour ce qui concerne l'Argentine, et puis quand même une sorte de... un grand mouvement social pour ce qui concerne le Chili.
Ouais.
Vous pouvez en parler un peu plus de ce qui se passe aujourd'hui C'est le moment dans votre émission ou je vais trop vite par rapport à... Vous avez envie de dire plus tard
Ça y est, c'est bon. C'est encore la vision.
C'est encore la vision. Alors, parlez-moi de ces pays. Alors, en France, il y a quand même un gros problème dans les médias, on va dire les mass médias, on parle assez peu de l'Amérique latine. Enfin, on aime bien l'Amérique latine pour le côté culturel, le cinéma, etc. Mais au niveau politique, médiatique, c'est pas des pays dont on entend beaucoup parler, alors qu'il y a des crises majeures actuellement, au Chili, en Argentine. Vous pouvez nous éclairer un peu sur ça, même si vous n'y êtes pas finalement allé ces derniers mois, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment
En Chili, ces dernières années, et avant le Covid, il y avait une révolution en Chili.
Ouais.
Et une révolution sociale des étudiants, de toutes les personnes. Et... c'était surtout pour la constitution qu'il y a.
Oui.
C'est la constitution qu'avait fait Pinochet pendant la dictature.
Mm-hmm.
Donc, pendant cette révolution, ils ont décidé de changer la constitution.
D'accord.
Donc, on a fait beaucoup de votations pendant 3 mois. C'était tous les week-ends de votation pour les personnes.
C'est-à-dire que vous votiez pour changer chaque point de la constitution ?
Oui,
parce que tu dis plusieurs votes. Vous étiez, tous les citoyens venaient voter pour donner leur avis sur plusieurs aspects de la Constitution.
Et on a fait que chaque région choisit à quelqu'un pour représenter la région et aller à la capitale pour écrire la nouvelle Constitution.
D'accord.
La nouvelle Constitution, ça doit être prêt maintenant quand j'arrive, je pense.
D'accord. Tu vas rentrer dans un nouveau Chili.
Oui, mais avant, il y a une votation que moi, je dois participer parce que moi, je veux déjà avoir 18 ans.
D'accord. Tu vas arriver juste pour voter, alors?
Oui, je vais arriver juste pour voter.
C'est un chouette retour. Espérons qu'effectivement, cette nouvelle constitution apporte... Alors, quelle est l'orientation de cette constitution? Parce que là, tu as parlé de Pinochet et de l'ancien régime. Mais quelle est l'orientation? Qu'est-ce qui change radicalement, par exemple, au niveau des libertés, de l'économie? Quels sont les points, on va dire, capitaux de cette constitution?
J'ai pas lu la constitution encore, parce qu'elle n'est pas encore prête. Ouais. Mais ça que j'ai vu, c'est que maintenant, il y a un point plus écologique.
Oui, d'accord.
Et il y a quelques mois qu'on a changé de président aussi. Mm-hmm. Donc, Chile et maintenant, il y a une vraie transformation totalement différente que c'était avant.
D'accord. Est-ce qu'il y a aussi une part de reconnaissance des peuples indigènes, des peuples qui existaient comme les Mapuches ou les...
Oui, la présidente de la personne qui fait la constitution, elle est Mapuche.
D'accord, donc il y aura une reconnaissance de ce peuple, de sa langue, de... Concrètement, peut-être tu ne sais pas, tu n'y es peut-être pas allée.
Tu
es trop française maintenant, mais peut-être... moi, j'ai entendu parler de ça, mais c'est quelque chose qui, visiblement, va aussi changer le visage politique du pays.
Oui, maintenant, j'ai compris qu'on peut apprendre la langue, et, par exemple, les Mapuches, les Jagans, les langues d'avant.
Oui, d'accord. Effectivement, ça donnera une reconnaissance à ces peuples primitifs.
Oui, mais on va voir, parce que ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Parce que maintenant, ça, comme la votation, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas la nouvelle constitution. Mm-hmm. Donc, on ne sait pas si on va rester avec la constitution de Pinochet ou la nouvelle constitution.
Ah oui, ce n'est pas encore sûr que vous changiez cette constitution.
Oui.
D'accord, c'est encore soumis à un vote prochainement. D'accord. Bon, eh bien... Bonne chance. Espérons que c'est une page qui se tourne dans ces pays. Tu peux nous parler un peu de l'Argentine? Alors, c'est pas exactement le même contexte, mais...
Non, il n'y a pas de réforme, parce que vraiment, en Argentine, on est... C'est-à-dire, et tout le monde veut changer, mais c'est vrai qu'on trouve une barrière, que, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment... Les personnes ne veulent pas changer, c'est-à-dire qu'on ne nous laisse pas vraiment changer notre modèle de vie, quoi.
Mais toi, au niveau de la Constitution, c'est une Constitution qui date de quand? C'est aussi une Constitution qui date des périodes de la période de dictature.
La dernière réforme, c'était 1994. Et oui, que vraiment, il y a un président qui a surtout changé un point pour être élu et une nouvelle période. Oui, c'est ça le point principal.
C'est-à-dire que le dirigeant a changé la Constitution de façon à être réélu.
Oui, voilà. Donc, c'est le seul président qui est élu. C'est-à-dire la période où il est resté dans le pouvoir est 10 ans, et avant c'était 6 ans, et maintenant c'est 4 ans. Mais lui était une exception parce qu'il a vraiment changé dans ces moments.
Et aujourd'hui, alors concrètement, parce que ça, peut-être le côté politique ne changera pas ce que tu dis, mais il y a quand même des changements d'ordre économique qui ont l'air d'affecter beaucoup la population.
Oui, bien sûr, surtout avec chaque gouvernement, ça change. Et avec le gouvernement d'aujourd'hui, le président qui prend en charge du pouvoir exécutif, c'est vrai que ça marche pas très bien, à mon avis.
Tu peux nous donner son nom, parce que...
Alberto Fernández. Ouais. C'est le nouveau président qui a été élu en 2019. Et avec la pandémie, c'est vrai qu'il n'était pas très populaire. C'est vrai, comment il a géré cette situation, c'était vraiment... a pas plu à la plupart des populations. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes par rapport à... au Covid. Et j'espère
donc
que
il est impopulaire. Il n'est pas populaire.
Et c'est vrai que, c'est-à-dire, il n'est pas populaire, mais, c'est-à-dire, ces gouvernements populistes, Et en dernier moment, essaye
de retourner leur
pour pouvoir être élu. C'est vrai qu'on devra voir parce que c'est pas certain. Hein.
Ouais.
Et les prochaines élections qui vont être l'année prochaine.
L'année prochaine, d'accord. Oui, bon, donc toi aussi, tu vas voter.
Et oui, je vais voter.
Tu auras 18 ans.
J'aurai 18 ans.
Parfait. Alors, est-ce qu'il y a une dimension, Suzanne, elle parlait du côté écologique qui a l'air d'arriver au Chili, à cette préoccupation qu'on a un peu tous en Europe aussi. Est-ce que ça apparaît dans le programme politique de...
Non,
l'Argentine n'est pas encore concernée par...
Bien que ce soit un vrai problème, ouais. Et on dit qu'on a des problèmes pires, bon, on priorise vraiment l'économie. Mais c'est vrai que c'est un problème important, quoi, l'écologie.
Mm.
Mais c'est vrai que ce n'est pas dans l'agenda politique
du moment, d'accord.
Malheureusement.
Bon, vous pensez avoir fait le tour ? Encore des choses à dire sur la situation on pourrait en parler des heures, évidemment.
Ah oui, bien sûr.
De ces deux grands pays, puis en plus qui ont des géographies particulières pour le Chili et puis l'Argentine. Bon, c'est des pays importants. Hein,
Oui, après, on va parler.
Dominant,
c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, des choses semblables, mais après, on va parler des différences. Pas les prochaines parties, mais la suivante, on va parler des différences.
On va approfondir les différences entre les deux pays.
Oui, voilà.
D'accord, on va creuser, d'accord. Alors, pour l'instant, on va rester un peu... Alors, on va parler un petit peu de vos... On va revenir en France.
Oui,
voilà. On va retourner en arrière, on va retourner dans le premier monde.
Ouais. Oui, tout à fait.
Et on va voir ce que vous pensiez du premier monde, c'est ça ? On va y revenir à cette question. On écoute une petite... Là, on a une petite musique pour changer d'ambiance, c'est ça ? Alors on l'écoute, puis après vous allez nous en parler. Alors, c'était quoi ça ? Attendez, c'est moi la française et c'est moi qui suis perdue. Il faut que vous m'éclairiez. Non, ça me dit quelque chose, mais alors éclairez-moi sur votre choix musical.
C'est la chanson typique de Ratatouille.
Ratatouille, d'accord. Ah, je suis trop vieille pour avoir les mêmes références. Alors expliquez-nous un petit peu ce choix. Là, on est revenu dans un autre univers. Je vous écoute.
Si tu écoutes cette chanson, on dit directement France.
On dit directement France. Ah ouais, c'est la musique cliché.
On y pense vraiment. Oui, c'est-à-dire, il y a beaucoup de chansons françaises qui sont un peu clichés, comme sur le trou d'Edith Piaf, les vieux chanteurs
et
chanteuses. Mais c'est vrai que c'est la chanson de Ratatouille, c'est-à-dire, c'est vraiment, oui, un cliché.
C'est la chanson elle-même qui est devenue maintenant Il y a un petit stéréotype de la France, quoi.
C'est-à-dire, je crois que tous ceux qui apprennent le français connaissent cette chanson. C'est aussi une bonne idée pour connaître un peu la grammaire, pour commencer vraiment à écouter des chansons françaises.
Ça a détrôné Edith Piaf, t'es en train de me dire ça ?
Non, Edith Piaf, c'est toujours
la référence ultime.
Mais
il y a un petit air années 50, hein. ça sonne vieillot, cet air. Hein. C'est pas la musique contemporaine française.
Bien sûr que non.
Il y a un côté très stéréotypé, bien sûr.
Oui.
Ouais. Alors, parce que vous avez vu le film quand vous étiez petit, c'est sorti quand Ratatouille ?
Les années
2007.
Oui, maintenant ça fait un peu longtemps.
D'accord. Mais toujours, ça reste comme ça une marque de fabrique française.
Oui, pour moi, c'est une des raisons par lesquelles je suis venu ici.
Vraiment à ce point-là.
Oui, oui.
Enfin, en même temps, c'est Walt Disney. Ratatouille.
Oui,
bon,
oui,
je vois pas trop le. Expliquez-moi un peu le.
Ah oui, c'est vrai, mais quand même, ça déroule en France. Et c'est pour ça que c'est un très joli film qui aussi parle de vraiment. C'est-à-dire, une souris, il y aura qui vraiment vient de la campagne, vraiment d'une famille pauvre qui vraiment n'a pas de la culture de la cuisine, mais quand même, n'importe d'où tu viens, tu peux réussir. Et c'est aussi de ce dont parle la chanson.
Ouais, d'accord.
Parce que, c'est-à-dire, la chanson parle au début d'une personne qui est malheureuse, vraiment, qui ne peut pas se percer dans le monde, et toujours vraiment. Le même repas, c'est compliqué vraiment de nourrir, vraiment, de se nourrir.
Ouais. Est-ce que ça fait aussi allusion à la cuisine française qui reste une sorte de mythe comme ça à l'étranger?
Je crois que c'est un cliché.
Une sorte de cliché de la gastronomie.
Il y a beaucoup de clichés français que moi je pensais voir ici quand j'arrivais, mais finalement je vois pas beaucoup les clichés que j'ai pensé.
T'as pas rencontré Ratatouille là dans la rue non, non, tu l'as pas vu
Non, non, ça on l'a pas vu. Oui, quand on était à Paris, c'est vrai que c'est une ville en bas plutôt sale, mais et, ben, ça c'est devant l'endroit.
Ouais.
Mais bon, on n'a pas vu des rats, heureusement, et à mon avis.
Mais parce que... on a un petit Ratatouille, tous les deux, tous les groupes.
Oui, parce que maintenant Rémi, le chef de Ratatouille, elle, on a, tout ça, on a une.
Ah oui, c'est la mascotte de votre de votre groupe de voyage, ouais, c'est ça. Et alors, si on met le doigt sur les clichés, c'est les clichés français. Vous dites dans la gastronomie, vous l'avez pas trouvé. Enfin, vous êtes peut-être pas trop allé au restaurant, je sais pas. Mais alors, il y a quand même des clichés que vous avez rencontrés. Vous avez dit là, c'est un cliché. Là, c'est vraiment. Je m'attendais que ce soit comme ça et c'est comme ça. Il y a des choses qui.
Oui, c'est vrai
que. Ils sont comme ça saisis en vous c'est, disant, c'est ouais, que, c'est vraiment comme ça.
C'est que j'avais entendu que les Français marchent avec une baguette sous les bras, et c'est vrai. Parce qu'on trouve que quand à vélo, oui, avec les baguettes, parfois, la baguette. Un baguette, si on
est la baguette reste la baguette.
Oui, la baguette est un hiver avec un béret. Oui.
Ouais, quand on voyage, on se rend compte quand même que, effectivement, le pays est un peu plus, les pays sont un peu plus compliqués que l'image qu'on s'en fait. Oui, heureusement aussi, que vous êtes venus jusqu'ici pour vous en rendre compte.
Oui, oui, tout à fait. Bah, et aussi, les fromages, bon, ça reste vraiment un cliché. Ça, c'est-à-dire, c'est aussi une raison pour laquelle je suis venue ici.
Vous avez aimé le fromage ?
Oui.
Parce que ça peut être aussi répulsif pour cette culture. Fromage. Oui, t'as aimé, t'as goûté dans les, dans les familles vous... ouais.
Je crois que c'est, si vous parlez avec ma mère d'accueil, il y a vraiment un souci par rapport au fromage parce qu'elle n'est pas très contente. Et vraiment, c'est un problème par rapport aux courses, vraiment, au pouvoir d'achat des Français, le fromage, parce que. Bon,
elle ne peut plus acheter autant de fromage qu'elle aurait pu.
Bah non, c'est-à-dire, non, en fait, elle peut acheter des fromages, mais le problème, c'est que quand elle va au frigo pour manger, il n'y en a plus. Hein, parce que manger.
Ah, parce que... ah, vous avez creusé le pouvoir d'achat de ta vie d'accueil. C'est terrible. Ah, effectivement, ouais. Ah, si vous mangez tout. Bon, c'est votre souvenir gustatif. C'est oui. Bien.
Mon préféré maintenant, c'est les camemberts.
Ouais.
J'adore.
D'accord. Ah, tu vas peut-être pas le trouver en rentrant à Puerto Natales. Ah, non, ça va être. Ça va être dur. Ouais. On pourra t'en envoyer, mais les colis arrivent facilement au Chili ou c'est compliqué ? Non, la poste ?
Non, c'est trop cher.
Ouais, ouais, c'est cher. Et c'est moi, j'avais envoyé un colis une fois.
Et après,
qui n'est pas vraiment arrivé. Hein,
peut-être qu'on va arriver après des 3 mois.
Ouais. Et puis, l'état du camembert, je te dis pas.
Hein. Ah, ouais. C'est mieux, n'en pas parler.
Bon, alors, camembert, baguette, on est bien dans le cliché. Un autre truc avant de.
Bon, je crois que c'est mon favori, c'est vraiment les onomatopées qui font les Français, surtout les hop, les tac, le bim et les respire.
Ah
et
oui. Si y a, en espagnol, des Argentina, il n'y a pas de onomatopées.
Bien sûr qu'il y en a surtout moi quand je fais. Quand je fais ça, et alors c'est aussi de moi, mais je dis, mais ce n'est pas quelque chose de négatif.
C'est, vraiment, c'est la saveur chouette, de la langue. C'est la saveur
oui,
de la
voilà,
langue,
c'est
ouais.
Vraiment quand tu vois l'essence, oui, c'est-à-dire. Ce sont des choses vraiment qui les Français dont les Français ne se rendent pas compte.
Oui, et puis qu'on n'enseigne pas en classe, hein, bien sûr. On ne va pas apprendre à faire des...
Ouais. Ouais.
Vous êtes venu jusqu'ici pour un H aspiré, ça c'est beau. Traverser l'Atlantique pour un H aspiré qui parfois est muet en plus.
Oui,
ouais, c'est formidable, quel voyage. Suzanne, autre chose sur les clichés ? Il y a autre chose qui t'a marqué
Moi, je sais qu'attendais voir, c'était quelqu'un avec un béret, avec un moustache, très français, avec un baguette, un croissant et un café.
Ouais.
Mais j'ai pas vu ça.
T'as pas vu ça. Alors, ça va pas être tout ensemble. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le plutôt vieux français, il peut être avec sa bicyclette, son béret. C'est quand même un vieux truc, le béret. Hein. Et la baguette. Mais peut-être le jeune français, surtout dans les villes, ils boivent leur café quand même avec leur croissant. Le croissant reste quelque chose d'assez typique.
Oui, moi, après les petits déjeuners, tout le jour, avec Mathéo, un croissant et un café.
Ah oui, toute l'année, vous avez fait ça.
T'es devenue française.
Vous avez pris combien de kilos, là avec les, ça va
Non, combien d'argent, vous savez dépenser.
Parce que le croissant, quand même, hein, souvenez-vous, pur beurre. Hein, si c'est le
c'est
croissant,
vrai.
Normalement, c'est
pur
beurre.
Ah non, mais on va laisser cette place à le broyer de Poitou, que c'est vraiment une spécialité de terroir. Ouais. J'aime bien.
Ouais. Le broyer du Poitou, alors là, c'est même plus que du beurre, c'est du beurre avec un peu de farine. Hein, c'est pire que le croissant.
C'est
quoi.
C'est...
Bon, bah écoutez, vous partez plein de saveurs et plein de souvenirs. C'est chouette, hein ? Vous avez le cœur gros de partir, mais vous savez ce que c'est avoir le cœur gros en français ?
Ouais.
Avoir le cœur, avoir de la tristesse, mais en même temps, les papilles pleines de souvenirs.
Oui, c'est le cœur dans la gorge.
Voilà, le cœur dans la gorge, ouais. Bon, on continue, on va retourner. Alors, cette fois, je regarde un peu ce que vous nous avez préparé. Alors, on a parlé des clichés, et on va retourner, là, on va peut-être nous repasser par une petite musique, c'est ça ? On va retourner au Chili ? Oui, c'est ça. Alors là, on va te laisser la parole. Suzanne, tu veux parler de la chanson d'abord, après ? On écoute d'abord ? Comment tu vois les choses ? T'as envie de parler un peu de cette chanson que t'as choisie, là, sur le Chili ?
On a choisi la chanson parce qu'on bien aimait la chanson, mais aussi parce qu'on va parler de la jeunesse. D'accord. La jeunesse après de la dictature qu'elle avait en Argentine et en Chili. Et la chanson parle de ça.
Tu peux juste donner son titre et le chanteur et la date pour qu'on sache, qu'on se repère un petit peu.
La chanson s'appelle La voz de los 80, de los prisioneros.
Et la date, c'est les années 80 c'est ça c'est oui, le rock and roll.
Oui, c'est quand la dictature est finie. Bon, c'est ça que. Et bon, c'est-à-dire bien que la chanson vient du Chili, c'est des images qu'on partage avec tous les pays, surtout l'Argentine qui est sortie de la dictature en même temps à peu près.
Ah oui, d'accord. Donc ça vous marque tous les deux, c'est quelque chose.
Mais oui, c'est vrai qu'on sent quelque chose quand la chanson elle commence. Et bon, on va l'écouter.
Ouais, rock and roll, c'est parti. C'est rock'n'roll, en effet. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce chanteur ? Tu peux nous traduire un petit bout ?
Un petit peu, ouais. En gros, on dit qu'après la dictature, on va changer le monde, les jeunes.
Chanson d'espoir, alors.
Oui, une chanson d'espoir pour retourner à la vie normale et changer les choses.
Oui, c'est changer la routine, vraiment, c'est... Ouais. C'est comme un étang, c'était la dictature, oui, pendant beaucoup d'années, à mon avis, en 10 ans, à peu près, bon, c'était 6 ans, quoi. Et bon, donc, il faut casser vraiment cet étang et pour avoir vraiment une vie plus active.
D'accord. Alors, vous, évidemment, vous ne l'avez pas vécu, puisque vous êtes bien après. Alors, vos parents, petits, l'ont...
Oui, mes parents l'ont vécu.
Ouais, tes parents l'ont vécu. Alors, qu'est-ce qui serait quelque chose qu'ils ont laissé derrière... Enfin, comment dire ? Tu te parles de faut changer l'état de la société. Alors qu'est-ce qui sous la dictature était invivable et qui a effectivement disparu avec le nouveau régime ?
Bon, c'est-à-dire
qu'est-ce qu'ils ont retrouvé avec la liberté ?
Bon, avec la liberté, c'est surtout ça que l'on a trouvé vraiment et liberté de faire ce qu'on voulait parce qu'il avait certains
dire livres, ce qu'on veut, oui, lire ce qu'on veut,
écouter ce qu'on veut. Parce que c'est vrai que les chansons c'est vraiment la manière la plus représentative de voir. Et vraiment, le changement de la dictature vraiment à la post-dictature, parce qu'il avait plein de chansons qui étaient interdites à l'époque.
Ouais. Et ça veut dire que sous la dictature, sous les dictatures en Argentine et au Chili, il n'y avait pas de radio libre, pas de journaux libres, on n'écoutait pas de chansons...
C'était la censure.
Ouais, censure. Et au niveau de la vie de tous les jours, qu'est-ce qui était... j'imagine parti politique interdit. Enfin, rassemblement politique.
Mais bien sûr.
Et au niveau de la vie quotidienne, qu'est-ce qui a changé ? Si tes parents l'ont vécu, comment ils ont vécu dans leur quotidien ce changement ?
Bon, c'est vrai que mes parents habitaient en province et c'est pour ça que la dictature n'a pas beaucoup touché vraiment. Et c'est dans les régions vraiment hors de la capitale ou hors des grandes villes.
Ouais.
C'est pour ça que mes parents étaient plutôt tranquilles. Vraiment, c'est vrai qu'il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Par contre, ma tante qui a étudié à l'université de sciences humaines,
Oui. Bon,
c'est vrai qu'il y avait certains sujets dont on ne pouvait pas parler forcément, c'est-à-dire qu'il fallait faire attention.
Comme quoi, par exemple ?
C'est-à-dire, bon, on ne pouvait pas vraiment donner les idées, c'est-à-dire encourager vraiment aux jeunes de penser pour eux-mêmes.
Par eux-mêmes, oui. L'esprit critique.
L'esprit critique, c'est vrai. Et chacun savait vraiment ce qu'il ne fallait pas faire.
Mm.
Oui. Et il y avait, ma tante m'avait toujours dit qu'il y avait certains copains et à elle qui enterraient les livres et pour ne pas les perdre. Oui, parce qu'après, c'est vrai que... Et
dans certaines maisons, cachait en les enterrant.
Il les cachait dans les enterrants, oui.
D'accord.
Et pour pouvoir les sortir, retrouver ces sentiments de la liberté. Oui. Ouais. C'est ça. Et il y a beaucoup, bien sûr, beaucoup des artistes, des écrivains qui ont dû quitter le pays. Et s'exiler, si je ne me trompe
bien
pas.
Bien sûr. Oui, s'exiler, c'est
s'exiler
ça, tout à fait. S'exiler
pour... et surtout en Europe, c'est vrai, pour ça. En Europe, il y a beaucoup de maisons où les artistes ont vécu. Oui.
C'est le cas... Tu retrouves le Chili dans ce que dit Alfonso de l'Argentine ? Et c'est une histoire similaire?
Oui, pour moi, c'est un peu pareil. Aussi, tes parents habitent dans une petite ville. Pour moi aussi. Je n'ai pas beaucoup d'histoires en rapport avec ma famille. Mm-hmm. Parce que, comme c'est une petite ville, il y a que...
Oui, parce que tu peux préciser d'où tu viens. C'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé. Toi, tu as parlé de Cordoba en Argentine, qui est une ville moyenne, c'est ça?
C'est-à-dire, la ville est assez grande, mais ouais. Mes parents, moi, j'habite surtout dans un petit village en Provence. Ouais.
Et toi, parle-nous de ton... Parce que c'était quand même très spécial, l'endroit d'où tu viens. C'est un peu le bout du monde. tu peux nous en dire plus?
Je viens de Puerto Natales, oui. Que c'est dans la Patagonie, dans le côté chilien.
Oui.
Dans le sud de Chili, dans l'extrême sud.
Ouais. C'est l'une des dernières villes au monde, c'est le bout du troisième monde.
Oui.
D'accord.
C'est pas la dernière.
C'est l'une dernière. Et là-bas, comment est-ce que tu as des témoignages, des histoires qui ont été racontées de cette période, de ce changement? Parce que bon, la dictature, on connaît des choses, mais cette liberté qui est arrivée d'un coup dans les...
Comme je dis, c'est un petit village.
Ouais.
Maintenant, il y a 20 000 habitants.
Ah oui,
à l'époque, je pense que 10 000... au moins que ça.
Ouais.
Mais en rapport, il n'y a pas beaucoup d'histoires. Ça que je connais, c'est que beaucoup de personnes de la capitale ou de le nord, où la dictature était trop forte, sont exiliées chez moi, dans les petits
d'accord.
villages. Comme
ils ont fait un exil dans leur pays.
Oui.
C'est pas vraiment... L'exil, c'est plutôt quand on quitte son pays. Mais bon, ils se sont déplacés dans le pays pour pouvoir échapper.
C'est trop difficile d'arriver chez moi, donc.
Oui, c'est presque un exil dans le pays. C'est ça.
Il y a fois que c'est plus facile d'aller à l'Argentine que connaître même Chili.
Bien sûr.
Le nord de Chili.
Oui, d'accord. C'est
C'est un exil dans le Chili. Et ils sont retournés ensuite dans le nord ou c'est des gens qui sont restés installés en Patagonie?
Je pense qu'il y a quelqu'un qui a resté et des autres qui sont partis.
D'accord. Et aujourd'hui, alors, vous vouliez parler de la jeunesse. Cette jeunesse, enfin, vous, votre génération, là, la génération Z, comme on dit, qui arrive. Alors, on va dire quand même, vous n'êtes pas la post-dictature, vous êtes plutôt celle d'après, qui n'a que des souvenirs un peu lointains, des témoignages, une histoire, on va dire, qu'on vous a racontée. Est-ce que ça marque votre jeunesse ou c'est quand même quelque chose, là, qui est vraiment dans le passé? Aujourd'hui, c'est votre pays respectif, vos pays, la République latine, c'est autre chose. C'est carrément autre chose. La page est tournée ou
Je crois que Susanne a fait vraiment une analyse très précise, c'est-à-dire les différences entre la jeunesse en France et au Chili, un peu en Argentine, surtout avec le lycée. Si tu veux donner ton avis.
Le lycée, aujourd'hui, au Chili et en Argentine, il représente...
Je vais commencer explique-nous, avec ça que j'ai dit avant, avec la nouvelle constitution.
Oui.
C'est les gens qui ont commencé à dire... qu'il faut une nouvelle constitution.
Ouais.
C'est les gens des primaires, terminales, qui ont mobilisé tout Chili.
C'est venu de cette partie de la population, essentiellement.
Oui, c'est les étudiants, les élèves qui
ont
fait tous les mouvements au Chili et qui après, toutes les personnes ont suivi.
C'est pas un mouvement qui est venu de la classe politique?
Non.
Ou des associations, ou des syndicats, ou des... C'est venu de la jeunesse?
C'est la jeunesse.
D'accord. Mais à cause d'aspirations plutôt écologiques ou à cause d'aspirations de quel ordre?
C'est un contrôle, mais ça a commencé avec les prix du métro qui a monté.
D'accord. Donc ça, c'était plutôt dans les grandes villes, j'imagine.
Oui, dans la capitale. Ouais. Ça a commencé dans la capitale. Les prix du métro a monté 30 centimes.
J'ai
fait l'échange de...
D'accord.
De l'argent. Et ça fait que tout le monde... d'entrer en colère et tout ça.
Donc ça commence à Santiago, avec la jeunesse, comment on dit, santiagaise,
Santiago de Chile.
Ouais, et on appelle ça los jóvenes de... Qu'est-ce qu'il y a un adjectif pour les gens de Santiago?
Les gentilés.
Vous avez un adjectif? Comme nous, on dit les Parisiens, vous voyez, est-ce que vous avez un...
Santiaguinos.
C'est avec eux que ça a commencé, les jeunes.
Les jeunes.
Et ils ont commencé donc de manifester.
De manifester pour ça, et après, je ne sais pas comment ça a commencé vraiment, parce que c'était avec ça, avec les prix qui ont monté. Et après, c'était beaucoup de choses qui se sont ajoutées à les mouvements. Et ça finit pour changer la constitution.
D'accord. Ah oui, donc il y a toute une implication politique après du monde et qui a abouti à ça. Espérons d'ailleurs, parce que ce n'est pas sûr. Ce que tu disais, c'est pas sûr. Il y a quand même des gens conservateurs qui veulent garder une forme de constitution assez raide, assez fermée, c'est ça?
Oui.
Ouais. D'accord. Bon, eh bien, c'est vraiment une page d'espoir avec cette nouvelle génération.
Ah oui, c'est vrai.
En Argentine aussi, la jeunesse est comme ça, dynamique.
Bon, je crois que on dit que le futur est un monde de jeunes, ouais. Et je crois que c'est une génération très active qui veut vraiment changer l'esprit, la mentalité. Et c'est naturel ça, parce qu'après quand les anciennes générations disparaissent, ce sont les générations d'aujourd'hui, les nouvelles générations qui prennent sa place. Et c'est pour ça que bien sûr qu'on observe en continu, un changement.
Vous retrouvez cet état d'esprit en France avec une toute autre histoire, ou c'est quelque chose qui concerne l'Amérique latine parce que c'est l'Amérique latine et que justement il y a cette histoire lourde derrière? Et est-ce qu'en France, vous voyez un nouveau vent comme ça de liberté ou d'aspiration, ou c'est quelque chose de typique de l'Amérique latine?
Je crois que je le vois, oui, aussi ici en France, en Europe, que c'est vrai que les jeunes prennent un peu la parole.
Et à propos de quoi, par exemple?
L'écologie. L'écologie surtout, et après certains sujets. En Argentine, c'est bien sûr qu'en Europe, c'est plus ancien. Mais avec l'avortement, ce sont vraiment les jeunes filles qui ont pris la parole et pour démarrer ces mouvements de
libération. Tu parles de l'avortement?
De l'avortement, oui.
Alors ça, c'est en Argentine, pour le coup, et au Chili. Parce qu'en France, ça fait longtemps
Ça fait longtemps, oui, bien sûr.
D'ailleurs, c'était jamais... on peut toujours avoir un retour en arrière, mais effectivement, l'avortement n'est pas légalisé en Argentine, totalement?
Si, il est légalisé, mais ça ne fait pas très longtemps.
Très longtemps.
Et deux, trois ans.
Ah oui, d'accord. Et en Chili?
Mais pas au Chili.
Donc ça fait partie des nouvelles revendications de la Constitution, par exemple, au Chili, la légalisation de l'avortement? D'accord. Et là, c'est plutôt les jeunes filles qui le portent? Enfin, les jeunes gens qui le portent?
Oui, les gens qui le mobilisent tout, avec les droits LGBT, les droits écologiques.
Ah oui, donc il y a aussi une dimension comme ça au niveau des mœurs, que, que la société évolue en acceptant effectivement le LGBT, le droit à l'avortement. C'est des nouvelles questions qui avant n'étaient pas posées.
Non, avant, pas du tout.
D'accord. C'est facile d'être homosexuel au Chili ou en Argentine, aujourd'hui?
Je pense que c'est plus facile en Argentine. C'est
vrai que c'est une question de grande ville.
Oui, ça dépend. Surtout, bien sûr, qu'en province, c'est plus compliqué parce que vraiment, on fait face à la mentalité ancienne, des vieilles générations qui pensent encore, mais ça change très, très vite et c'est un continu vraiment.
Les jeunes qui relèvent, on va dire, de LGBT+, ils sont victimes de violences, ou tout de même, ils peuvent avoir une vie quasi normale?
Ça peut arriver, mais c'est vrai que c'est de moins en moins heureusement.
Et comment réagit le monde politique? Il condamne ça, enfin le monde, va dire, judiciaire. C'est condamner les violences anti-LGBT, ou c'est quelque chose qui est encore passé sous silence?
C'est condamné. C'est vrai que la justice en général, ça marche pas très bien.
Il y a un problème de dysfonctionnement, mais il y a un problème quand même. La morale évolue, mais la justice est un peu lente.
La justice, oui.
D'accord. Ok, on pourrait parler, bien sûr, l'heure tourne, hein, on est bien au lycée Berthelot, là, cet après-midi, il fait chaud, ce soir c'est la fête de la musique, hein, on va devoir partir parce que c'est bientôt la fête de la musique quand même, mais on va encore parler on a deux, trois choses sur le... Non, on voulait parler des Français, alors vous m'avez dit les Français, ils changent aussi, vous m'avez aussi dit, parce que je suis votre prof de français, que les Français étaient assez individualistes. Alors,
la vie de classe.
C'est votre impression plutôt par rapport au lycée, c'est ça? Vous pouvez creuser un petit peu ce point-là? La vie en classe pour des jeunes lycéens qui arrivent de l'Amérique latine. Votre impression quand vous êtes immergé dans une classe française? Là, vous êtes en première. Vous étiez en première avec des élèves qui passent le bac de première. Ils le passent en ce moment. Vous ne le passez pas puisque vous repartez chez vous. Alors, ces élèves, vous les avez trouvés assez fermés sur individualistes Et c'est quelque chose qui vous a choqué, ou vous trouvez ça bizarre, ou...
Quand j'y arrivais, pour moi, c'était trop difficile d'intégrer au lycée.
S'intégrer dans le lycée. Ah oui, d'accord. Ouais.
Je ne parlais pas du tout français, mais personne ne me parlait.
Ouais. Donc... Même des élèves qui étudieraient l'espagnol, ils n'avaient pas l'intérêt d'échanger avec toi pour pratiquer.
Personne, si tu fais ça en Chili, arrive en étranger, n'importe où, tout le monde te va parler.
Ouais.
Pour t'intégrer à un groupe au lycée ou dans les cours, faire des sports avec eux. Là, c'est plus ensemble que faire les choses. Ici, pour moi, c'est trop individuel.
On a tous compris, c'est clair.
Oui,
alors, est-ce que c'est lié à une mentalité française générale, ou c'est lié au fait qu'il y ait un système scolaire qui soit vraiment comme ça en train de presser les élèves, qui font qu'aussi, ils n'ont pas beaucoup d'espace de liberté?
Par rapport à
comment vous ressentez ça, vous? C'est plutôt lié un état d'esprit général ou c'est vraiment le système là, qui fait que... Bon,
c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vie sociale et c'est vrai par rapport à mon pays. Parce que, bon, on a une culture aussi de la fête, vraiment, de se rencontrer toujours, faire quelque chose. Ici, les élèves sont plus occupés, c'est normal. Mm. Mais par contre, je crois qu'en général, c'est-à-dire, bien sûr, ça dépend de la classe, vraiment, le lycée, la région.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et c'est normal. Dans mon cas, et c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup, l'opportunité d'avoir des amis français. Ouais. Parce que, bon, c'est comme Susanna a dit, c'est compliqué de s'intégrer vraiment. Et chacun dans sa nuage, vraiment... Ouais.
Pourtant, toi, tu parlais déjà pas mal français quand tu es arrivé.
Oui,
donc, c'est pas le problème de la langue. Tu pouvais communiquer.
Voilà. Ouais. Oui, j'ai parlé français, mais c'est vrai que personne n'était vraiment intéressé vraiment à faire l'échange culturel. Par contre, en Argentine, c'est qu'on aurait fait vraiment, c'est être tout le temps et en dessus de l'élève pour connaître un peu sa culture, parce que c'est vraiment quelque chose.
Ah, vous aurez eu plus de curiosité. Alors que là, passif. Ça. Ils ont été passifs, ils ne sont pas trop.
Parce que vraiment, les élèves ne sont pas méchants. Vraiment, ils ont été parfois gentils avec moi et ils n'ont rien dit, c'est-à-dire ils m'ont pas fait mal. Mais
oui,
c'est vrai que pas beaucoup de curiosité et solidarité non plus.
Ouais. Et par rapport aux cours de... Alors, vous avez suivi tous les deux les cours d'espagnol
Non, il n'y a que Susanne qui a suivi
Susanne.
Les cours.
Ouais. Quelle est la vie... Là, tu devais quand même être le centre de l'intérêt, quand même. Il y avait...
C'était horrible, les cours d'espagnol.
Ah, d'accord. Donc, contre-exemple total. Tu veux nous en parler? C'est intéressant, parce qu'on aurait pu imaginer que là, t'es la star. T'arrives d'un pays, en plus, il y a quelque chose d'exotique dans une chilienne du bout du monde, mais non.
Oui, non. Non. Quand j'ai arrivé, j'ai dit, cours d'espagnol, ça va aller. Ça va aller parce que je parle espagnol.
Oui.
Mais après, quand la première évaluation que j'ai faite, c'était un 8 sur 20.
Ah oui, t'as eu de mauvaises notes.
Oui, en espagnol.
Ah d'accord, en espagnol.
Oui.
C'était de la traduction ou c'était quoi?
C'était, je ne rappelle pas.
C'était de l'espagnol d'Argentine.
Bon, j'ai coqué la réponse dans mon monnaie.
C'était la grammatique.
La grammaire, ouais.
La grammaire, mais pour exemple, si tu me demandes les participés passés en français,
ah oui, d'accord.
Je connais les participés passés en français, mais pas en espagnol.
Ouais, mais t'as eu une excellente prof de français. C'est... on te demandait de l'analyse grammaticale que tu n'avais jamais faite.
En Amérique du Sud, et on n'étudie pas. Je ne sais pas, toi, Alphonse,
tu n'étudiais pas la grammaire de cette façon.
On peut l'étudier, mais c'est après, pour se rappeler, non. C'est, non
ah, donc t'as eu de mauvaises notes en espagnol toute l'année, non, quand même.
Non, pas toute l'année.
Il y a eu l'oral, il y a eu plein de choses.
L'oral, l'écrit. Après, j'ai fait une présentation de chez moi, du Chili.
Oui.
Dont j'ai parlé devant toute la classe en espagnol.
Ouais.
Quand même,
il y a eu un côté valorisant pour toi. Et malgré ça, les élèves ne s'intéressaient pas plus que ça au Chili ou à ta vie, même avec la présentation
Non, du coup, j'avais quelques questions très... Je ne sais pas comment dire. Très...
Générale ?
Non, très, très drôle pour moi, parce que...
Très drôle, ah oui ?
Une fois, elle m'a demandé si en Chili, il y a des voitures.
Ah oui ?
Si en Chili, il y a d'internet.
Ah oui, d'accord.
Si il y a la guerre.
Ah ouais, Oui, parce qu'on entend parler peut-être vaguement parfois de la révolution dont tu parlais, mais on connaît tellement peu. Bon, il y a une responsabilité des médias, c'est des pays, on le disait tout à l'heure, qui sont. Culturellement, on aime bien. Vous voyez l'Amérique latine, les danses et tout, mais en fait, médiatiquement, politiquement, on connaît rien. Hein, franchement, assez peu. Donc, j'excuse pas la jeunesse française, bien sûr, surtout quand on étudie l'espagnol, évidemment, on devrait s'intéresser.
Tous les jeunes de l'Amérique latine connaissent la France, mais les Français connaissent pas forcément la journée. En fait, tout le monde pensait que j'étais italien.
Ouais.
Et une fois, ils m'ont demandé, mais tu parles français? Et il dit, bien sûr, oui, je suis là depuis 5 mois, je crois qu'un peu.
Ouais,
et bon, mais c'est vrai que, aussi, un choc un peu culturel, c'est vraiment le sentiment d'appartenir vraiment à une classe, parce qu'en Argentine, on est toujours dans la même classe depuis le début. Bon, moi, j'ai la même classe depuis 6 ans.
Ouais.
Et aussi, c'est-à-dire les événements qu'on fait, vraiment la vie, vraiment de interagir avec les professeurs.
Ouais.
Et avec le lycée, de faire les fêtes du lycée.
Et là, c'est pas le cas. Il se passe.
Ici, vraiment, on finit les cours et c'est bon. Mm. Enfin, alors que en Argentine, mais au Chili aussi, je m'avais parlé. Et que on fait vraiment des fêtes, des événements pour fêter la fin des cours avec toute la classe.
Mm-hmm. Et régulièrement, il y a des journées, des choses, des événements réguliers qui fédèrent les gens. Ici, les gens sont un peu atomisés dans leur coin.
Oui, chacun fait ça qu'il veut.
Ouais.
Tout le monde est tout pour les vagues et c'est tout.
Ouais. Et c'est vrai qu'il y a cette obsession du bac, il y a ces grandes journées scolaires qui font qu'on a peu de temps en France pour être disponible même mentalement à autre chose. Il faut avoir du temps aussi dans la tête.
Oui, il n'y a pas beaucoup d'activités extra-scolaires.
Ouais.
aussi, donc ça c'est un peu difficile pour les étudiants.
Bien sûr.
Aussi.
Et les élèves sont vraiment très occupés avec le bac, surtout parce que...
Ouais. Et encore, vous n'êtes qu'en première, ils n'ont plus de matière.
Oui, bien sûr, mais je ne veux pas imaginer l'année suivante.
Mais vous passez des examens dans vos pays
Oui,
vous
n'avez
pas cette dose de stress
Mais bah, non, on n'a pas d'examen final, on n'a pas d'examen vraiment comme le bac. Et, mais bon, bien sûr que les examens, c'est vrai qu'aussi, ici, je ne suis pas stressé parce que, bon, et je ne passe pas les examens. Mais quand même, les élèves sont très stressés, beaucoup de pression par rapport à leurs parents, à mon avis, et aussi au système.
Et c'est moins le cas chez vous, vous avez l'impression que les élèves sont plus libres, parce qu'il y a un contrôle continu, c'est-à-dire que vous avez les notes au fur et à mesure, vous n'avez pas cette grosse pression d'un examen final qui, cette fois, ce jour-là, il faut que je réussisse, ça n'existe pas
Chez moi, il y a une évaluation comme le bac, mais il n'y a pas l'oral, part orale, que je pense que c'est la part plus dure. De les bacs, la part orale.
C'est vrai.
Après, l'évaluation, c'est les connaissements des les premières années jusqu'à la quatrième année.
Ah, c'est sur un programme plus général.
Oui, c'est
donc, et les notes comptent de ces quatre années?
Non. L'évaluation finale, c'est de tous les cours que tu as fait.
Ah oui, donc dans les quatre dernières... Pendant les quatre dernières années, c'est ça. Ah oui, donc peut-être ça rend les choses moins stressantes parce que petit à petit, on s'habitue à l'idée qu'on va être évalué.
Oui, parce que j'ai appris les connaissements. Après, je sais pas.
Les connaissances.
Les connaissances. Après, je sais pas beaucoup des les bacs parce que, comme je fais pas les bacs, j'ai pas appris.
Là, quand vous rentrez, vous passez un bac, un examen?
Non, je rattrape toutes les matières, tous les cours que j'ai pas fait.
D'accord. Mais vous avez pas d'examen à la rentrée?
Je rentre, c'est les vacances d'hiver.
D'hiver, ouais.
Donc,
vous êtes de l'hémisphère sud. Hein.
Ouais.
Il fait froid là en ce moment, c'est le début de la.
Ouais, c'est vrai, en Argentine, c'est un peu bizarre parce qu'il fait. Dans ma région, qu'il n'a pas fait toujours très froid. Mm. Bon, moins 3, c'est quand même. C'est-à-dire,
c'est froid.
Oui, c'est froid parce qu'on n'est même pas en hiver. En Argentine, il fait moins 3, moins 4 parfois.
Ah oui.
Et bon, alors, ce qui n'est pas ici en France, c'est la canicule, même pas en été.
Vous allez avoir un choc thermique. Préparez-vous,
Préparez-vous,
pensez-y dans l'avion, d'accord, attention à l'atterrissage. Bon, on va continuer, on enchaîne sur une autre chanson, alors toujours pareil, vous la présentez peut-être, c'est votre chanson, alors c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, La Gozadera, qu'est-ce que ça veut dire?
La Gozadera, en fait, c'est une fête de Caraïbes, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on ne la connaît pas, nous, en Argentine, mais surtout parce que cette chanson nomme tous les pays d'Amérique latine. Et l'Argentine et le Chili sont ensemble. Et par contre, on va parler un peu des différences entre les. Je pense que c'est vrai que oui, on dit l'Amérique latine.
C'est une façon d'introduire les différences. Ah oui, on avait dit. Tout à l'heure, on a vu les points communs. On a compris qu'il y a une histoire commune, une pensée commune, une façon de faire la fête commune, ou même l'école a des points communs. Mais là, vous allez vous séparer.
Oui, c'est vrai.
Allez, séparons-nous. Gozadera, por favor. Alors, le monde... Alors, j'ai entendu Brasilia, non?
C'est chanson de tous les pays.
Tous les pays. Moi, je suis allée au Brésil, je suis désolée, c'est le seul, lo siento mucho, c'est le seul que je connais.
C'est
et d'accord, alors on élargit au Brésil, on va rester sur Chili, Argentine. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui vous sépare? Alors,
je crois que c'est
des montagnes.
C'est vrai que bien qu'on ait été ensemble pendant c'est-à-dire la conquête, c'est-à-dire vraiment on faisait partie du royaume d'Espagne.
Ouais.
Et pourtant, le Chili était toujours séparé comme une façon de capitanie. Oui, par rapport à l'Argentine, c'était une partie qui avait comme tâche de vigiler vraiment l'océan Pacifique. Et
vigiler, c'est-à-dire surveiller, c'est ça?
Surveiller.
Ouais, d'accord. C'est joli, il faut que je le retienne, il est beau ce néologisme. Vigiler.
Vigiler, oui.
Vigilar?
Oui, vigilar.
Ah, d'accord, ok. Oui, surveiller.
Surveiller, oui, l'océan. Et bon, pourtant, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences, c'est toujours une rivalité, on peut dire.
Ah oui, à ce point-là, oui, parce qu'il y en avait un qui sentait... on dit que l'Argentine se sent comme un pays général ou européen, un peu supérieur.
Oui, parfois,
c'est
oui,
vrai, ça, c'est un cliché, c'est moi qui suis dans le cliché maintenant.
Oui, non, mais c'est tout à fait que les Argentins sont assez prétentieux, surtout ceux qui habitent dans la capitale,
ouais.
Parce que moi j'habite en Provence, la meilleure région, Córdoba.
Ouais.
Córdoba capitale. Et puis, bon, c'est comme dire, vraiment, c'est la rivalité, oui.
Mais alors, sur quel point ? Historique ? Ou aujourd'hui,
bon, oui,
encore,
c'est
il y a une
histoire.
Idée...
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt un préjugé. Oui.
Ouais.
Et surtout que moi, j'avais, lorsque j'ai connu la petite Suzanne,
ouais.
Quand il a dit que les empanadas venaient de Chili, et j'ai dit, bah non, c'est d'Argentine. Mais on est arrivé à un accord que c'est quelque chose de régional.
Qu'est-ce qui vient de...
Las empanadas, que c'est un plat typique de l'Argentine.
Ah, et bien, il faut expliquer, parce que là, on n'y connaît rien. Attendez, il y a un
tout
plat...
Ça, les...
Vous avez en commun, mais que vous revendiquez chacun de votre côté.
Oui.
C'est un plat de quoi ?
C'est il y a la viande, des oignons.
Oui, ce sont des petits chaussons de pâtes et où l'on met de la viande. On peut mettre ce qu'on veut, quoi.
Mais... Et ça, alors du coup, quelle est la réponse ? Là, les auditeurs sont suspendus. Vous êtes chilien ou argentin ?
D'Espagne.
Ça vient d'Espagne.
D'accord. Wow, oui. En fait, on peut dire que c'est plutôt régional, oui, mais c'est vrai qu'en Espagne.
C'est arrivé avec la conquête.
C'est pas très certain toujours, mais je crois que ça vient de la région, oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Argentine et Chine, c'était le royaume d'Espagne.
Oui, bien sûr.
Mais bon, c'est normal.
Alors, t'es d'accord avec cette analyse ?
Oui, d'accord, on a déjà parlé.
Oui, beaucoup, on en a beaucoup parlé.
Alors, qu'est-ce qui a séparé le pays en deux c'est quoi l'historique ? Rapidement, parce que l'heure tourne, notre technicien doit bientôt partir. Alors, on va abréger l'histoire du Chili de l'Argentine. Qu'est-ce qui a séparé les deux pays ? Parce que vous disiez que c'était...
Alfonso, je te laisse parce que...
Rapidement,
rapidement.
T'as 30 secondes.
Je crois que c'est surtout lors de la guerre de Malouine et quand le Chili a... C'est-à-dire, c'était le gouvernement, bien sûr, pas les Chiliens, qui ont décidé d'aider... Et le Royaume-Uni, au lieu de l'Argentine, c'était le...
Pour la possession de ces îles,
Le Chili a aidé le Royaume-Uni pour qu'il puisse, récupérer, garder les îles qui étaient occupées par le Royaume-Uni, mais que l'Argentine voulait revendiquer, oui.
Et là, ça a séparé politiquement les deux pays. Et c'était un conflit assez grave. D'accord.
Et après, un autre conflit que l'on peut mentionner, c'est que, il y avait un conflit de la frontière. C'est en espagnol, le canal de Beagle.
Mm-hmm.
Et bien sûr, je ne sais pas comment dire ça. C'est vrai,
redis-le plus.
Et canal
Martin
de Beagle.
Que je puisse le comprendre.
Oui, d'accord. Oui. Non, c'est le conflit du canal de Beagle. C'est un détroit. Oui,
d'accord.
Un détroit au sud d'Argentine et le Chili. Et avec lequel on avait une dispute.
Il y a aussi eu un conflit de territoire.
C'était pas la guerre, mais presque. C'est vrai que le pape et Jean-Paul
a pacifié la.
A fait une médiation. Oui.
D'accord, pour que ça s'arrête.
Mais oui, c'est vrai qu'il y a 40 ans ou 30 ans, on est en paix, avec le Chili.
Et on voyage facilement d'un pays à l'autre.
Et bien sûr.
Oui.
C'est,
aujourd'hui, il n'y a pas de...
Avec une petite identité, c'est...
Il n'y a pas de frontières.
Et pour moi, c'est trop facile, c'est 15 minutes.
T'es plus proche, finalement, largement de l'Argentine que, finalement, que de Santiago, par exemple.
Ah oui, ça c'est sûr.
Bien sûr. Combien de kilomètres de Santiago, entre Santiago et Chili ?
2300
kilomètres.
Argentine,
10 kilomètres. Vous êtes quand même bien proches les uns des autres.
J'habite au centre de l'Argentine, ça c'est assez loin. Ma province est un peu ma région, la même latitude que la capitale de Chili.
Donc c'est bien imbriqué l'un dans l'autre. Bon, on va écouter le mot de la fin, je pense. On finira sur une dernière chanson. D'abord, je remercie grazie mille et Matteo pour la technique. Sans technicien, on n'aurait pas eu de... Rien n'est possible sans la technique à la radio. Suzanne, je te souhaite un magnifique retour dans tes terres lointaines de Patagonie.
Merci.
Alfonso, bien retour à Córdoba.
Córdoba,
c'est pas le nom du village, c'est quoi le nom de ton village ?
Oui, General Cabrera.
Plus tranquille.
General Cabrera.
Ça, c'est le village d'où tu viens, d'accord, dans la province de Córdoba.
Oui,
t'es content de retrouver l'Argentine ?
Rapidement. Je ne veux pas quitter la France, mais
c'est
aussi
vrai.
J'ai hâte aussi de rencontrer ma famille, mes amis.
Vous avez le cœur coupé en deux.
C'est
le voyage. Bon,
on n'est pas sûr.
Bon retour dans vos terres, Argentine pleine de promesses. Merci d'être venu jusqu'à nous pour nous, nous parler de votre pays. Allez, adios.
Adios.
Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy. Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco. Que es probable que